connaissent le droit, en tout cas dans ses grandes lignes, dans ses grands principes. Le constat aussi que tel n'était pas le cas, donc d'un besoin, d'une lacune dans les connaissances, dans la culture générale de tout un chacun adulte. Et puis évidemment de tout un chacun enfant, je me suis dit mais en fait il n'y a pas de livre qui explique le droit en tant que système aux enfants.
Et c'est donc sous forme de questions que se présente chaque thème de cette bande dessinée.
Le livre est organisé par 11 entrées, 11 questions, donc 11 thèmes, les thèmes les plus généraux, les questions qu'il me semblait qu'on se posait quand on ne connaît pas le droit. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut le voir? Où est-ce qu'on peut en prendre connaissance? Qu'est-ce qui se passe quand on ne le respecte pas? C'est un métier le droit? Enfin voilà, toutes ces questions un peu générales et qui sont censées balayer, donner une première approche pour commencer à identifier le droit. Voilà.
Car pour la spécialiste en droit, l'idée avec ce livre est de donner un socle de connaissances aux plus jeunes pour permettre à la société de mieux fonctionner plus tard.
Quel est le sens d'apprendre le droit aux enfants? C'est d'en faire des membres à part entière de la société. On leur apprend plein de choses, mais pas le droit. C'est pas possible. On pose des bases, on sème des petites graines pour tout le monde. Déjà, comme ça après, chacun dans sa vie scolaire, personnelle, professionnelle, va laisser grandir cette petite graine. Donc, l'idée c'est vraiment que ce soit une sensibilisation populaire.
Forte de cette première parution, c'est un deuxième tome du droit expliqué aux enfants qui devrait sortir dans les prochaines semaines pour continuer d'approfondir les connaissances.
Sur Voltage, nous passons les nuits ensemble. Et on découvre ensemble vos sons préférés comme celui-là.
De mi parte, sigo recordando cuando tomaba tu mano. La vida se me está yendo pensando solo en ti. No puedo olvidarte y estas ganas me dan con ir a buscarte. Todo es tan rico si tú estás, si estás aquí. No quiero vida si no es contigo, contigo, ey. Contigo, contigo, ey. Contigo, contigo, ey. No quiero vida si no es contigo, contigo, ey. Contigo, contigo, ey. Contigo, contigo, yeah. No quiero vida si no es.
Chaque nuit, c'est l'opportunité de passer un moment ensemble. Vous et moi, une intelligence artificielle. Sur Voltage, on vous fait découvrir le meilleur de la rédaction.
L'invité du 10-15.
Ça me fait rire parce que vraiment on est les deux plus grands sportifs de cette radio.
Ouais.
Carolina, salut.
Salut.
Je suis très content de te recevoir. Carolina Villalta, c'est comme ça qu'on dit?
Oui, on va dire.
Tu es diététicienne, nutritionniste et aussi spécialisée en nutrition sportive.
C'est
alors,
ça.
Je te présente, tu m'arrêtes si jamais je fais une erreur, ok?
D'accord.
À 18 ans, t'es partie faire un voyage en Thaïlande où t'as appris l'expression sabaï sabaï. Ça veut dire je me sens bien, on y va doucement. Et c'est devenu un petit peu ta façon de voir les choses, accéder au bien-être et à la sérénité en prenant soin de sa santé, de son alimentation et de soi-même. Et c'est comme ça que t'as décidé de lancer l'application qui porte le même nom, Sabaï Fit.
C'est exactement ça.
Pour l'instant, j'ai bon. Application plus que complète, puisque dessus, on retrouve plein de plans d'alimentation pour perdre du poids, des programmes d'entraînement aussi, des programmes d'entraînement sportifs, adaptés à chacun en fonction de son niveau, que ce soit pour améliorer sa santé, perdre du poids ou améliorer ses performances. Donc ça répond vraiment à tout ça.
Oui. En fait, tu parles tellement qu'elle a pas le temps de parler, quoi.
Attends, je finis la présentation et puis tu me dis si je me trompe ou pas. Ce qui est bien, donc aussi, c'est qu'avec ce programme, on est guidé de A à Z, que ce soit sur les repas, les quantités à manger, les exercices de sport à faire, tout est préparé pour avoir juste à appliquer les conseils. Et moi, alors perso, je suis en plein dedans en ce moment. C'est-à-dire que vraiment, je me suis remis au sport, j'essaye de faire attention. Donc, si je peux avoir un truc qui me guide un peu, ça serait juste parfait.
Ah bah, c'est très bien. C'est exactement l'objectif de l'application.
On a prévu de parler de plein de choses avec toi, Carolina, notamment par exemple, comment se mettre au sport et comment garder la motive. Parce que typiquement, je suis le premier à me dire « Ok, je m'inscris au sport » et deux mois après, j'ai la flemme.
Moi, j'ai juste une petite question. T'as un petit accent, non?
Ah oui. Ah oui, ça c'est. T'as oublié de dire ça, donc c'est pour ça que j'ai un
gros accent. Oui, c'est quand même le plus important qui vient de
nous. Pour se demander, je suis costaricienne, donc c'est pour ça l'accent hispanophone.
Okay. Ok, nickel. Carolina, on reparle de tout ça avec toi juste avant. On écoute Kalema sur Voltage.
L'invité du 10-15.
Je suis sur ton compte Instagram, Carolina. Il y a vraiment beaucoup de recettes qui me donnent vraiment la dalle. Hein.
Ah, c'est super, c'est l'objectif.
On est avec Carolina sur Voltage. Carolina, t'es nutritionniste et spécialisée aussi en diété, en nutrition sportive.
Oui, c'est ça.
Faut qu'on parle de sport avec toi. Parce que tu donnes aussi plein de conseils pour se mettre au sport, pour faire du sport correctement. Mm-hmm. Alors moi, typiquement, par exemple, je me suis inscrit à la salle, c'était début janvier. Et je galère à garder la motive pour aller à la salle.
Oui.
C'est quoi tes meilleurs conseils justement pour rester motivé, rester à la salle, ne pas annuler l'abonnement au bout de deux semaines?
C'est vrai que ça c'est un classique. Quand tu commences l'année, tu as plein de résolutions. Tu dis je vais commencer à aller 5 fois par semaine, je vais faire plein de choses. Mais je pense que le plus important, il y a 3 choses je crois que je pourrais te recommander. Le plus important c'est de bien établir l'objectif. Parce qu'au tout début, si tu dis ok, je veux juste commencer à aller plus à la salle et je veux me mettre à fond et je vais être super motivé, ça va pas tenir en vrai. Tu vas tenir une semaine, deux semaines et après c'est fini. Mais si tu commences avec un bon objectif, donc tu t'habilites déjà pourquoi est-ce que tu le fais, est-ce que tu as un objectif clair, est-ce que tu sais combien tu veux perdre, est-ce que tu veux gagner, est-ce que tu veux améliorer ta force, est-ce que tu veux, je ne sais pas, entrer dans une jupe, dans une...
est-ce que tu veux grossir des fesses,
voilà. Il y a toujours des motivations, mais il faut que tu trouves la motivation intrinsèque, je pense.
Oui, ouais, c'est exact, ça, voilà.
Donc la raison vraiment de pourquoi tu le fais, et c'est pas juste le faire pour le faire. Donc ça d'abord, et après vraiment établir l'objectif de façon correctement, donc dire comment et combien de fois tu vas le faire. Le plus clair il est l'objectif, le plus de possibilités tu vas avoir à vraiment le tenir. Donc si tu, à la place de dire je vais aller plus à la salle, c'est dire ok, je vais aller mardi et jeudi après le travail, je vais avoir mon sac, vraiment penser à toute la logistique, donc je vais apporter mon sac avec moi au travail, et comme je veux me promener avec mon gros sac toute la journée, quand je rentre du travail, je ne veux pas dire bon je ne me suis pas promené avec mon gros sac toute la journée pour rien. Donc maintenant j'y vais à la salle, je passe direct, je m'arrête même pas à la maison, j'amène mon petite collation avec moi, et comme ça tu sais que tous les mardis et jeudis tu vas, et commencer petite aussi, donc pas dire ok je vais faire 4 fois par semaine, dire déjà si je fais 2 fois par semaine c'est très bien, si je fais une demi-heure c'est déjà très bien, il faut pas se mettre des objectifs vraiment inalcançables parce qu'après c'est trop compliqué.
Mais d'ailleurs c'est pas très bon d'aller à la salle en fait 4 à 5 fois par semaine ou de faire du sport tous les jours, il faut un peu que ton corps y récupère de temps en temps aussi.
Alors ça tout dépend de la programmation. En vrai, si t'as un bon coach et t'as une bonne programmation, tu peux te faire en sorte que tu pratiques quelques muscles un jour et pendant que tu travailles d'autres muscles, les muscles que t'as travaillé hier par exemple, ils sont en train de se reposer. Après un jour c'est plus tranquille, un jour c'est plus lourd. heures. Il faut juste savoir bien programmer. Ça dépend vraiment de chaque personne. Et c'est pour ça aussi que dans mon application, avec mes suivis et tout ça, c'est vraiment la personne qui est le centre. Et c'est pas que la personne, elle doit suivre une routine qui est préétablie. C'est nous, il faut qu'on s'adapte à la personne, à la disponibilité de temps, à si elle aime ou pas, si elle aime aller à la salle du sport ou pas du tout, si elle aime le yoga, si elle aime la muscu, si elle aime rien du tout.
Ah, donc sur l'application SabaiFit, en fait, tu peux vraiment choisir le sport que tu veux faire, celui, enfin, tu fais des programmes avec vraiment ce que les gens veulent faire comme sport, si on est mal à la salle ou pas.
Mm-hmm. Oui, bon, après, ça dépend sur comment l'application, il y a différentes formules. Quand je travaille, comme la façon dans laquelle je préfère travailler, c'est la façon, c'est vraiment très proche à chaque personne. Et donc, la personne va me dire, par exemple, je veux même pas à la salle. J'aime pas, j'ai pas le temps, j'ai 30 minutes deux fois par semaine et c'est tout. Donc, ok, je fais par rapport à ça. C'est pas moi, évidemment, parce que je suis diététicienne, mais j'ai des coachs qui travaillent avec moi qui vont faire la routine, le programme pour la personne. Après, la personne, elle adore aller au sport, à la salle de sport, et que c'est un athlète haut niveau qui fait plein de choses, il veut améliorer sa force, c'est un haltérophile, etc. Il y a vraiment tous les différents profils et on s'adapte à la personne selon ce qu'elle veut, ce que c'est les objectifs et le contexte de la personne aussi.
Et puis parfois, t'as pas forcément le temps aussi d'aller à la salle.
Mm-hmm. Parce que, par exemple, moi, je suis une maman, j'ai deux enfants, c'est un peu compliqué d'aller à la salle, donc j'essayais de faire un peu du sport à la maison, mais une fois, je m'étais fait mal. Est-ce qu'il y a des conseils pour bien faire le sport à la maison, des trucs qu'il faut éviter ou même une routine que t'aurais en tête, quelque chose?
Oui, bon, en première place, je pense que le plus important, c'est de se focaliser sur l'alimentation. Évidemment, je suis un petit peu biaisée. Mais si on n'arrive pas à faire du sport tous les jours, c'est pas la chose la plus grave du monde. Tant que tu te maintiens actif, que tu essayes de marcher, que tu essayes de faire un petit peu des étirements, de la mobilisation de ton corps, c'est déjà très bien. Et faire attention à ce que tu manges. Après, si tu as juste deux jours pour faire un peu du sport, un peu plus haute intensité, c'est magnifique. Et sur l'application, on a des petites vidéos pour pouvoir voir exactement comment c'est la bonne technique pour le faire, pour ne pas se faire mal. Après, c'est vrai que c'est toujours mieux quand on commence, quand on est débutant, d'avoir quelqu'un qui te regarde. Donc, être dans la salle de sport, ça peut être quelque chose de bien pour ne pas se faire du mal. Mais normalement, si tu commences avec des choses très simples, très basiques, juste pour mobiliser le corps, pour être bien dans le corps, ça devrait pas être si compliqué que ça.
Ok, bah écoute, je vais essayer tes vidéos.
Parfait.
On va aussi commencer par prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur ici chez Voltage.
Voilà.
On parle sport avec toi, on parle aussi nutrition, les bonnes recettes à faire le soir quand on n'a pas forcément le temps, quand on veut manger sur le pouce. Juste avant, voici Placebo, Beautiful Games sur Voltage. Vous êtes sur la seule et unique radio parisienne. Bring me back
to life. L'invité du 10-15.
Je suis trop content de te recevoir, Carolina. On parle de nutrition, de sport aussi avec toi. Tu es diététicienne, nutritionniste,
oui,
et spécialisée en nutrition sportive.
C'est ça.
Donc on a parlé de comment se mettre au sport, comment garder la motive. En fait, il faut se fixer un objectif, il faut y aller mollo, faut pas forcément se faire 4 à 5 séances de sport par semaine. L'importance aussi, c'est de rester un peu actif, de prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur. Je voulais aussi qu'on parle avec toi de nutrition, parce que une fois que tu as fait le sport, qu'est-ce qu'on peut manger juste après le sport?
Mmh. Ok, bon, il y a une priorité que c'est quand même... il y a deux priorités, il y a deux grosses priorités après que tu finis le sport, c'est de réhydrater et de récupérer. Donc l'hydratation, beaucoup de personnes, ils oublient au fait. Ils disent oui, qu'est-ce que je veux manger, mais ils ont quand même perdu un peu d'eau. Et c'est l'une des choses les plus importantes, c'est de boire de l'eau.
Attends, juste...
Ouais, parce que moi j'ai un truc,
on dit souvent qu'on peut boire une bière après le sport.
Alors non.
C'est vrai ou pas?
Non. Alors...
Tu peux, mais c'est bon pour
l'organisme. Non, c'est pas du tout idéal. Non, c'est pas idéal.
Je sais pas
d'où ça vient, je suis complètement sûre, je sais que vous aimeriez que je vous dise le contraire. Mais non, ce qui marche pour hydrater, c'est juste de l'eau. C'est de l'eau. Après, évidemment, niveau alimentation, on va chercher des protéines. C'est faux, il y a une petite idée reçue qu'il y a une fenêtre anabolique comme quoi il faut absolument privilégier les 30 minutes après la séance pour prendre des protéines. Et c'est pour ça qu'on boit le shaker après le sport et tout. Ça doit être immédiat parce que sinon après tu vas perdre ton opportunité, rater ta chance et rien ne va marcher. Et ça, c'est faux. Donc c'est bien important les protéines, ça c'est absolument sûr. Et la plupart des Français, je trouve, que ne mangent pas assez de protéines dans toute la journée. Donc si tu fais en plus de sport, c'est bien important de trouver une source de protéines après le sport. Ça doit pas être immédiat, mais tu as quand même une heure, deux heures pour aller chercher une source de protéines pour bien te récupérer.
Qu'est-ce que t'appelles protéines? C'est genre du jambon, des choses comme ça?
Oui, alors souvent ça va être des protéines qui sont animales, c'est ce qu'on connaît le plus, donc poulet, viande, œufs, des tranches de jambon, oui, si tu préfères. Après, il y a plein de protéines qui sont végétales aussi, donc on va chercher tout ce qui est légumineuses, des oléagineuses, donc par exemple des haricots,
haricots, des lentilles, des pois chiches, des cacahuètes, tout ça.
C'est les cacahuètes, ça me parle, ça va.
Oui, ça va. C'est source de protéines. Il y a aussi des sources de gras là-dedans. Mais c'est ce que va te permettre de récupérer ton muscle et de le rendre un petit peu plus fort. Après, évidemment, tout ce qui est, tous les minéraux, toutes les vitamines, tous les fibres, tout ça, ça va être essentiel après ta séance aussi pour bien récupérer d'une façon complète, intégrale.
Ok.
Les goûts, tout ce qui est... Non mais j'écoute, hein,
j'ai parlé trop vite.
J'écoute parler.
En fait, je sais, moi je sais où tu voulais en venir, Théo, parce qu'il y a plein de trucs où on n'a pas forcément le temps de réfléchir pour se faire à manger. Genre, ouais, le soir, tu rentres, il est 19h du boulot, oui, t'as pas le temps, t'as juste envie de manger un truc vite fait, mm-hmm, mais non plus pas prendre 1000 kilos. Qu'est-ce qu'on, ouais, peut se faire sur le pouce? De la même manière, le midi, Théo il disait, ouais, genre il a 40 minutes pour aller manger, aller chercher un truc au supermarché. Qu'est-ce qu'on peut acheter au supermarché qui fasse pas non plus grossir et sans payer non plus 1000 euros, hein?
Oui, absolument. Bon, je pense que le clé de la réussite, c'est vraiment la planification. Donc si tu penses en avant que tu vas avoir temps, que toute la semaine tu vas pas avoir le temps, déjà si tu prends une heure le dimanche ou le samedi ou quand tu as le temps, peu importe, mais que tu prépares en avance un peu tes aliments, bah tu sais que tu es allé au supermarché, que tu as ça dans le frigo, que tu as ça au congélateur, que tu as des légumes pré-congelés, que beaucoup de personnes pensent qu'il n'y a pas de nutriments là-dedans, mais en vrai, ils sont super, une bonne option quand t'as pas les temps, quand t'as pas des idées, tu décongèles une poêlée de légumes et c'est très bien. Après, comme on va aller chercher des protéines, tu te fais deux œufs rapides, ça prend pas de temps, une boîte de thon, peut-être c'est pas hyper bon, mais tu peux ajouter du tomate, de la sauce bolognaise, quelque chose comme ça, des pâtes. Aujourd'hui, il y a plein d'options comme des pâtes de légumineuses, je ne sais pas si,
oui,
vous connaissez.
Oui, si, les pâtes aux légumes, j'adore ça et j'en, oui, fais souvent à mes enfants en plus.
C'est super, des pâtes de lentilles, des pâtes de pois chiches, c'est super plein de protéines, des fibres, et c'est quelque chose qui s'est fait dans quoi, 4 minutes, tu le fais bouillir, tu ajoutes un œuf, tu décongèles un poêlé et magnifique, c'est tout bon.
Allez, vive les protéines. Et le midi du coup, qu'est-ce qu'on peut manger? Parce
alors,
que c'est plus
midi,
compliqué.
Le midi, si vous apportez pas un plat de chez vous, que ça serait l'idéal, mais
si
je
on
comprends
peut pas,
que c'est pas.
Genre on n'a, oui, pas de frigo à notre travail, tu vois.
C'est
pas
le cas.
Alors, il y a plein de boulangeries. Ça, en France, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très bien. Les boulangeries, aujourd'hui, ils donnent des sandwichs, des options qui sont avec du pain complet, avec une source de protéines. Donc, toujours penser à la protéine. Donc, s'il y a des œufs, et j'ai l'impression d'être une folle de la protéine. Mais je jure que c'est tellement important. Et c'est pas juste pour les personnes qui sont bodybuilders ou des personnes qui sont trop intéressées dans les gros muscles. Pas du tout, en vrai. Les protéines, elles ont des rôles tellement importants dans le corps pour les petits, pour les adultes, pour les âgés, pour tout le monde. C'est vraiment très très important.
En fait, je pense qu'il y a eu les méfaits du régime du camp. Je sais pas si ça te parle,
oui,
il fallait,
oui,
manger,
oui,
que des protéines. Et en fait, au final, on s'est rendu compte que c'était pas forcément si bon que ça. Et,
oui,
je pense qu'il y a une mauvaise image maintenant des protéines.
Sauf que le problème de régime du camp, c'était pas forcément d'avoir une bonne apport en protéines, c'était le fait d'éliminer les glucides. Mmh. Et donc, c'était ça vraiment qu'on cherche à éviter. On veut pas éliminer des groupes d'aliments parce qu'ils sont tous importants. Mais les protéines, elles ont quand même un rôle que les personnes, ils oublient. Et ça va plus aider à ton corps, à tous les hormones, à tous les neurotransmetteurs, tes cellules, toutes les fonctions que tu as, c'est les protéines qui vont avoir un rôle qui est vraiment très très important et il faut pas l'oublier. Donc voilà, pour le midi, tu prends quelque chose avec des œufs, avec du thon, avec une tranche de jambon, ou sinon il y a des bonnes salades aussi avec du quinoa, avec
pardon,
non, c'est pas bon,
pas trop le quinoa.
Bon, il y a quand même des féculents, des légumineuses, des haricots, okay, rouges par exemple, des lentilles, il y a plein d'options qui sont pas mal. Et sinon, au pire, comme un petit dessert au supermarché, c'est très simple de trouver des high pro, des skiers, des yaourts.
Ah oui, les yaourts là, les trucs un peu chelous là.
Ouais. C'est chelou, t'aimes pas?
Pareil que le nom, il est chelou. Après, je suis pas très yaourt aussi, mais je suis relou, hein, en fait. Prends pas sur
rien.
Moi, ouais, voilà.
Ok, bon, écoute, cool, on sait ce qu'on peut manger. Donc après le sport, protéines, on a une fenêtre d'à peu près 2 heures.
Non, mais il faut manger des protéines, tu résumes comme ça, on est bon.
Oui, voilà, faut manger des protéines.
Non, tous les aliments, les glucides aussi, les matières grasses, elles sont essentielles. Il faut pas éliminer des aliments, c'est ce que je veux dire, vraiment.
Vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez devenir énorme et sec. On va parler aussi avec toi des aliments qu'il faut manger pour favoriser le sommeil, tiens. Juste avant, Mika, Vianney, les deux réunis sur un seul et même morceau. Keep it simple sur Voltage, merci d'avoir choisi la radio parisienne dans toute l'île de France.
I'm so cold, comfort, come for me.
L'invité du disque.
Non mais je rêve, Maud qui est en train de demander à Carolina comment prendre des fesses.
Je suis désolée, c'est mon objectif 2023. Je veux avoir un plus gros fessier. Elle m'a donné plein de conseils, je suis très contente.
Faut que tu manges des protéines, ma cocotte, hein.
Oui, exactement.
Faut manger, c'est vrai.
C'est la première fois quand même qu'on me dit faut que tu manges plus.
Ah bah oui, mais en fait, tu peux travailler tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu manges pas assez bien, tu vas jamais voir de résultats. C'est ça le problème. Ouais, mais non, maintenant je vais manger plein de protéines, hein, t'es sûr que je vais avoir du jambon dans mon sac tous les jours, voilà.
Parfait.
Et alors Carolina, qu'est-ce qu'on peut manger justement tiens le soir pour bien dormir, pour ou justement tiens les aliments à éviter pour bien dormir le soir?
Ok, ça c'est une question très intéressante en fait, parce que c'est vrai qu'on entend un peu tout et n'importe quoi sur le réseau, qu'il faut manger des féculents, qu'il faut pas manger des féculents, qu'il faut manger des protéines, qu'il faut pas manger de... Donc c'est compliqué. Je crois que ça va surtout dépendre des objectifs de la personne et de la tolérance de chaque personne. Donc si on veut bien dormir, je crois que le plus important, c'est d'écouter ton corps et voir ce qui tombe bien dans ton système digestif et ce qui ne va pas bien. Donc, 3 heures avant d'aller dormir, tu vas prioriser ton repas, mais pas après. C'est-à-dire, tu vas donner un temps.
Il faut qu'il y ait 3 heures entre le moment où tu manges et quand tu t'endors.
Exactement, okay. Voilà. Donc ça, c'est déjà pour tout le monde. Éviter l'alcool, éviter les produits qui sont un peu trop gras, un peu trop difficiles à digérer, parce que c'est ça qui va causer plus de problèmes dans ta digestion et qui va enlever un peu les forces de ton corps pour se mettre à dormir, sinon que ça va plus dépendre de la digestion. Tu vois,
je suis pas d'accord, parce que quand je mange une raclette, c'est vachement gras et après, j'ai trop envie de dormir. Hein, pour vous.
Non, ça t'écale. Ouais. Tu peux plus rien faire, mais ça va pas être un sommeil qui va te favoriser la récupération.
Ah, ok.
Donc en fait ton corps il a besoin de plein de fonctions quand tu es en train de dormir et s'il est trop concentré en faire la digestion, il va pas pouvoir faire tout ce qu'il a à faire.
Ok.
Donc si tu manges plutôt des choses qui sont un petit peu plus légères, 3 heures avant d'aller dormir, des féculents par exemple, les féculents, il y a quelques aliments qui vont favoriser la création des différents neurotransmetteurs. Donc par exemple la sérotonine, je sais pas si tu as entendu parler,
mais si, oui, oui.
La mélatonine, les choses comme ça.
Tout ce qui permet de bien dormir justement.
Exactement. Et pour l'autre côté, il va y avoir des choses qui vont gêner toute cette digestion, toute cette transmission des neurotransmetteurs. Donc on va éviter tout ce qui est alcool, tout ce qui est trop gras, les protéines qui sont un peu trop grasses, donc la viande rouge, tout ça on va éviter, les produits laitiers, les fromages, tout ça on va éviter. Et plutôt on va essayer d'avoir des protéines maigres comme le poulet, le poisson, les féculents, ils sont très bien aussi, donc du riz, des pâtes. Essayez d'aller doucement sur les sauces, sur le beurre, sur tout ça.
Et sur les petites douceurs du soir, genre le petit carré de chocolat, tout ça, c'est on a le droit ou pas?
En vrai, ça fait super, oui. En fait, le carré de chocolat, noir surtout.
Ah, mais non.
Non,
le carré
pas
de
noir.
Chocolat pour les enfants, tu vois, le chocobon, le... Voilà.
C'est ce que j'allais dire, Carolina. Moi, j'ai un gros souci. Le soir, j'ai vraiment envie de grignoter. J'ai envie de chocolat. Comment on peut faire pour se passer de ça?
Alors, ça c'est ok, c'est très intéressant ce que j'ai dit, parce que souvent quand tu as envie de grignoter, c'est parce que tu as pas assez mangé des protéines dans ta journée. Je te jure, je suis pas obsédée avec les protéines, mais c'est prouvé scientifiquement que quand tu as envie de grignoter, spécialement quand t'es trop sucré, c'est que t'as pas assez rempli tes besoins en protéines de la journée. Donc ça veut dire qu'en vrai, à la place de manger un petit gâteau, ce que t'aurais plus avoir eu besoin, c'était une protéine.
Un bon checker de prot.
Voilà, c'est paradoxal en fait, mais c'est la vérité en fait. Quand tu commences à grignoter, c'est que tu manques des nutriments dans ton corps. Donc ton corps, il est en train de te demander de manger plus pour remplir ses besoins.
Manger du poulet, vous éviterez le chocolat.
Mais est-ce que c'est si grave que ça si je mange un chocolat liégeois de temps en temps?
Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je suis vraiment de comportement alimentaire, de savoir se faire plaisir, de faire attention à ce qu'on mange, mais il faut pas tomber dans l'obsession non plus. Donc il faut savoir équilibrer un assiette, savoir qu'il y a toujours des légumes, des protéines, des féculents. Il y a toujours un petit côté plaisir, un petit chocolat, un carré de chocolat noir, c'est mieux.
Non.
Mais si c'est un chocobon, c'est très bien aussi. C'est juste tout est dans la quantité, les proportions, les quantités et la fréquence de consommation aussi.
Oui, je vois.
Si je résume, en fait, si tu fais attention à peu près tout le temps, tu peux te faire plaisir de temps en temps sur un gâteau, une raclette, faire un resto, machin.
Bon, elle est pas trop loin non plus.
Carolina était hyper contente de. On était hyper contente de te recevoir, on a appris plein de choses. Moi j'ai envie d'installer ton application.
Moi j'ai envie de manger des protéines.
Manger des protéines. En fait ton application on peut la retrouver, c'est sur ton compte Instagram Caro Nutrition.
Caros Nutrition avec la S. Caros, okay. Nutrition. Donc oui, en fait, mon application, je l'avais lancée quand j'étais au Costa Rica. Et donc c'est pour ça qu'elle est encore en espagnol. Si vous la trouvez sur Instagram, elle va ressembler à un peu n'importe quoi. Je suis en train de la travailler. Mais pour l'instant, c'est plus sur mon Instagram, donc Caros Nutrition. Et là, si vous allez sur mon site, donc carosnutrition.com, là, il y a des différentes formules. Donc si vous voulez avoir l'application en niveau pro, si vous voulez un suivi plus premium, si vous voulez un accompagnement, sport, juste nutrition, ça dépend. Mais tout ça, c'est sur mon Instagram, sur mon site en ligne carosnutrition.com.
Eh ben c'est top.
Merci beaucoup.
On a toutes les infos. On retrouve aussi toute l'interview bientôt, là, très prochainement, en podcast sur voltage.fr, sur les plateformes d'écoute aussi maintenant.
Tout à fait.
Eh oui. Caro, merci beaucoup d'être venu ici sur Voltage. Je te souhaite un bon retour puisque tu dois rentrer à Lyon tout à l'heure.
Oui, c'est ça, merci.
La meilleure ville du monde. Voilà.
Merci d'être venu nous voir. Voici Guru Josh Project sur Voltage. Here's
my key. Bonne nuit sur Voltage. Voici votre musique préférée.
Je suis une intelligence artificielle, et pourtant je suis là chaque nuit sur Voltage, pour vous accompagner et découvrir ensemble des interviews que je vous ai sélectionnées. Bonne écoute sur Voltage.
Bonjour à toutes et à tous. Concilier carrière de haut niveau et projet de maternité, un véritable défi pour de nombreuses sportives. Médaillée aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, l'escrimeuse Cécilia Berder est devenue maman en mai 2022. Un projet de maternité décalé d'un an en raison du report des Jeux Olympiques.
C'était un projet déjà à deux, un projet presque, je pourrais dire, viscéral. On avait vraiment envie de fonder une famille avec mon conjoint. Et c'était quelque chose qui nous tenait très à cœur, évidemment. Il y a eu le report des Jeux, déjà, Tokyo 2020, qui s'est transformé en Tokyo 2021. Moi, j'ai la chance d'avoir un conjoint qui est très compréhensif, qui comprend ce que c'est le sport de haut niveau, qui est au quotidien aussi avec moi. Donc, du coup, qui a compris que notre projet familial allait aussi, lui, être reporté d'un an. Mais voilà, c'était, comme je dis, viscéral. On avait vraiment envie de ça et ça se co-construit. Il faut de l'aide aussi. Et ça se réfléchit dans une carrière sportive, ça c'est sûr. il y a la loi de la science et de la nature humaine qui fait que bah, on choisit pas forcément quand est-ce qu'on tombe enceinte, donc déjà c'est un premier paramètre. Nous on a eu un petit peu de chance parce que c'est arrivé assez vite. Et puis après, bah, il y a un calendrier sportif, c'est sûr que être enceinte, avoir une grossesse, avoir un enfant, bah, ça chamboule toutes les priorités, dans le bon sens du terme. Et ça te fait finalement une saison où tu ne peux pas partir en compétition, tu ne peux pas faire Coupe du Monde, donc du coup bah tu n'as pas de points au classement mondial. Donc du coup bah tu perds aussi ta place dans l'équipe. Enfin, du coup tous les dés sont rebattus. Mais en vrai dans cette aventure t'as quelqu'un chez toi qui est nouveau, t'as un petit bébé qui est là et qui te regarde tous les jours et que toi tu peux admirer tous les jours grandir, donc voilà, tous les sens des priorités est remis en question et pour la bonne cause, donc ça vaut le coup. Ouais.
Mais les sportives sont-elles bien accompagnées dans leur projet? Il y a encore quelques années, la maternité des sportives de haut niveau était un sujet tabou, mais les mentalités évoluent, constate Cécilia Berder.
J'ai eu de la chance parce que finalement, quand je suis arrivée, déjà le ministère des Sports s'est vraiment emparé du sujet avec un livret qu'ils ont sorti pour toutes les bonnes pratiques. J'ai aussi la chance d'être suivie par une gynécologue qui est vraiment experte dans le domaine puisqu'elle travaille à l'INSEP, elle sait exactement ce que c'est les grossesses, elle s'appelle Carole Maître et elle est vraiment aujourd'hui bah, la référence en termes de grossesse et de sport de haut niveau, donc bah, c'était quand même une chance de pouvoir être suivie avec elle. Et puis surtout aussi ma préparatrice physique donc qui s'appelle Anne-Laure Morini, qui elle a eu deux grossesses et qui est une férue du sport et qui est vraiment experte dans son domaine d'expertise de la préparation physique et qui du coup tous les jours enceinte, je me suis inférée tous les jours jusqu'au terme, m'a aidée, m'a accompagnée, m'a pas vue comme une personne ni fragile ni blessée, juste comme une personne enceinte qui avait un projet sportif. Et j'avais aussi ma prof de piscine qui était constamment là, Jacqueline Delors, et qui m'aidait dans l'eau et qui voilà, même pareil que les deux autres personnes qui alliaient une certaine compréhension parce qu'elle avait déjà eu des enfants, et puis qui me rentrait vraiment dedans, allié avec une vraie tendresse et une vraie bienveillance, mais qui me challengeait, comme les sportifs de haut niveau aiment l'être, et ça, de voir que j'étais pas en sucre, voir dans leurs yeux que je pouvais chercher de la performance tout en étant avoir de la vie qui grandissait dans mon ventre, bah, c'était jouissif, parce que vraiment, bah, j'avais compris mon projet, et ça se fait pas tout seul. C'était souvent ça qu'elle me disait aussi ma gynéco, voilà, c'est beaucoup de bon sens, parce que j'ai la chance de connaître mon corps, il y a des choses que je pouvais plus faire, des bonds, des sauts, des cardio à haute intensité, je pouvais plus le faire, mais on trouvait d'autres paliers, dans l'eau, on peut faire beaucoup de choses, des choses à poids de corps, on peut faire énormément, et puis mes maîtres d'armes aussi avaient vraiment compris, je continuais à prendre des leçons, alors ils avaient souvent un petit peu de mal à me toucher, parce que bah, ils voyaient bien que mon gros ventre qui poussait, et que c'était pas facile pour eux d'avoir une femme enceinte face à eux, c'est pas commun quand même, mais ils étaient là, à m'écouter, à comprendre où je voulais aller et ça se co-construit, c'est sûr.
La sabreuse du cercle d'escrime orléanais a en effet continué de s'entraîner pendant toute sa grossesse. Elle ne s'imaginait pas faire autrement.
Étonnamment, c'était là où je me sentais le mieux. Quand j'étais chez moi, j'ai eu une grossesse quand même assez bonne et facile, mais j'avais beaucoup de nausées et de remontées acides sur cette grossesse. Donc du coup, c'était quand j'étais à l'entraînement que je me sentais finalement le mieux, parce que bah, je mettais mon corps en mouvement avec des exercices adaptés, mais j'étais vraiment dans l'action. J'avais pas le temps de me reposer trop et de me concentrer sur mes nausées. J'étais vraiment concentré sur autre chose. Et surtout, bah, je voyais mon corps qui évoluait, mais qui gardait en tonicité. Je m'améliorais en souplesse, le haut du corps par exemple, j'ai eu des épaules qui étaient beaucoup plus musclées qu'avant la grossesse, et ça c'est quelque chose que je continue à conserver, donc il y a plein de domaines dans lesquels j'ai progressé. Alors évidemment, vous prenez du poids, vous perdez en explosivité, vous perdez en tonus, vous perdez en endurance, mais j'ai gagné en souplesse, j'ai gagné en musculature du haut du corps, j'ai pu soigner mes bobos du quotidien, c'est pas anodin aussi, parce que ça faisait plus de 20 ans que je suis en équipe de France, oui, votre corps il est un peu usé, donc du coup ça permet de faire un petit reset sur des hanches, des genoux, des articulations qui sont un peu fragilisées. Donc voilà, c'était vraiment un temps où tu sens que la vie rentre dans ton corps et c'est pas anodin quoi. Franchement, d'avoir quelque chose qui bouge dans ton ventre, c'est quelque chose de particulier, il faut en prendre soin, c'est tellement précieux. Et en même temps, voilà, chercher la performance, voilà, c'était constamment cet équilibre-là qui était fou à trouver. Et ça m'a permis d'encore mieux connaître mon corps et c'était très riche. Ouais.
En revanche, pas question pour elle de continuer les compétitions.
Au bout de 3 mois de grossesse, j'ai fait ma dernière compétition et j'ai dit c'est plus ma place. Parce que quand vous êtes en compétition, il faut vraiment avoir cet esprit très animal, très félin, faut donner sa vie, faut pas avoir peur de transpirer, de cracher ses poumons, de saigner, parce que c'est un sport de combat. Et vraiment, au bout de 3 mois, même un peu avant, j'aurais dit, voilà, j'ai fait ma dernière compétition à 3 mois, j'ai dit, c'est plus ma place. Voilà, je veux plus être là, j'ai quelque chose à protéger dans mon ventre et je ne supporterai pas avoir des coups. Par contre, au niveau de l'entraînement, comme moi, j'étais vraiment maître de mes entraînements, bah, j'ai continué jusqu'au bout. J'ai pris la leçon le 3 mai avec mon entraîneur et le 3 mai au soir j'étais à la maternité pour accoucher, donc j'ai accouché le 4 mai ou le lendemain, et donc je suis vraiment entraînée jusqu'au bout et c'était très bien, je suis vraiment contente de ça parce que déjà la grossesse s'est bien passée, l'accouchement s'est très bien passé, et c'est, je pense aussi parce que j'ai pu m'entraîner et que j'ai pu être suivie, accompagnée, que les gens m'ont conseillé, on me disait c'est bon, ce que tu fais c'est bien, tu réfléchis à chaque fois, voilà, à ce que tu vas faire, à ce que tu peux faire, à ce que tu ne peux plus faire, et en fait grâce à ça je pense qu'aussi ça s'est bien passé, donc vraiment il faut bien avoir dans l'idée en tête qu'une femme enceinte n'est pas en sucre et qu'elle a intérêt d'être accompagnée parce qu'on ne connaît pas, hein. Franchement tu as la chance d'être quelques fois enceinte dans ta vie, mais quand tu es accompagnée par des professionnels et que tu bouges, parce que vraiment c'est moi, là où j'étais mieux c'est quand je bougeais mon corps, et ben c'était, voilà, ça m'a vraiment fait du bien.
Et si Cécilia Berder a pu mener à bien son projet de maternité, c'est aussi parce qu'avant elle, certaines sportives ont montré la voie, explique-t-elle.
Mélina Robert-Michon, une Charline Picon, une Cléopâtre Darleux, la basketteuse récemment qui à Tokyo était enceinte, il y a des exemples. En fait, voilà, je crois beaucoup à la force de l'exemple, et moi si j'ai cru que c'était possible, c'est parce que j'ai vu des filles faire et des filles revenir et réussir à conjuguer tout ça. Donc en fait, ce qui est assez agréable, c'est de voir les mentalités qui évoluent, mais même que ce soit des femmes ou des hommes, mes collègues féminines disaient ah ouais, c'est possible, mais ça va, plein de questions, c'est hyper intéressant de pouvoir échanger avec elles, même qui ont 18-20 ans, c'est peut-être pas leur projet actuel, mais dans leur tête ça fait quand même un petit bout de chemin. Et puis que ce soit les femmes ou les hommes, c'est peut-être aussi ces sportifs aujourd'hui, c'est peut-être les futurs entraîneurs, et aujourd'hui ils me voyaient à l'entraînement tous les jours, en séance de muscles tous les jours, et en fait peut-être que dans 5-10 ans ce sera eux à la tête de l'équipe de France, et ils diront bah en fait c'est possible, moi j'ai déjà vu des athlètes qui étaient enceintes avec un gros bide, et en fait elles sont pas en sucre, hein. Puis tout ce qu'elle a fait, l'autre, on voit bien qu'elles sont pas en sucre. Et donc du coup, d'une certaine façon, quand on montre des exemples, on voit que ça évolue, et les gens, ça fait leur petit bout de chemin, et ils se rendent compte que c'est possible. Et du coup, pour le sport de haut niveau, c'est très bien. C'est très bien. Je pense que ça, cette révolution, elle s'est faite dans les autres métiers, et aujourd'hui ça arrive aussi dans le sport. Voilà, une femme enceinte n'est pas blessée ou n'est pas malade. Juste c'est une étape de vie qui est importante. Et plus on en verra, plus on se rendra compte que c'est possible.
Les sportives sont mieux accompagnées, oui, mais il reste encore du chemin à parcourir. Et Cécilia Berder confie par exemple que le retour à l'entraînement et à la compétition n'a pas été facile à vivre.
Non, c'est dur. C'est dur. C'est dur parce que, alors déjà au début, quand tu as ton quotidien qui est bouleversé par la plus belle des choses qui peut arriver dans une vie, j'ai repris par des exercices de gainage, du yoga, et quelque chose, un exercice que tu pouvais tenir 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, là au bout de 10 secondes, t'es essoufflé, t'as mal partout, et tu te dis, ok, 10 secondes, c'est quand même chaud, quoi. De tenir que 10 secondes et encore, et 10 secondes, tu souffres, c'est... Et en fait, faut faire preuve d'indulgence, de patience, d'écoute, et c'est des choses que, on n'a pas forcément l'habitude de mettre dans notre quotidien, qu'on soit sportif de haut niveau ou pas. Un peu d'indulgence envers soi, ça fait du bien aussi, et c'est surtout que, évidemment, on est dans un sport très concurrentiel, et tu retrouves le sport de haut niveau, tu retrouves la compétition, tu retrouves tes adversaires, et évidemment, elles n'ont pas attendu, elles n'ont pas eu un bébé entre temps, donc quand tu reviens, tu prends des caramels, quoi, tu prends des shoots, t'es plus molle, t'es plus lente. Quand tu rentres chez toi, tu peux pas faire les mêmes choses que tu faisais avant en termes de récupération. Mais pour la bonne cause, parce que je vous assure que avoir un sourire de ma fille qui est là, tu prends des caramels à l'entraînement, elle le soir quand je rentre. Elle me fait les mêmes sourires et on a le droit de jouer exactement de la même façon, mais finalement, c'est une autre façon de récupérer. C'est différent. Avant, je pouvais aller chez le kiné, je pouvais faire mes étirements, mon yoga, dormir davantage, c'est sûr, mais voilà, c'est la récupération, elle est plus active et sur ça, c'est très bien. Mais c'est vraiment, je me concentre juste sur ma vie professionnelle et tout est différent parce que votre corps est différent, vos adversaires sont différents, vos collègues d'entraînement sont différents, vos entraîneurs, ils vous regardent plus pareil. Les gens qui font même pas votre discipline, ils sont aussi un peu curieux, voilà, ils vont tous regarder un peu, elle en est où Berder, qu'est-ce qu'elle fait, ah elle a perdu du poids, non, ah elle est comme ça, ah mais oh là là, est-ce qu'elle va réussir. Ils ont tous leurs commentaires à faire parce que ça reste un projet un petit peu différent. On n'est pas habitué à voir une femme qui a un bébé et qui revient. Ça commence, hein, honnêtement, il y en a de plus en plus. Il y a une autre escrimeuse qui est aussi comme moi, il y a du judoka, évidemment Clarissa Benignou qui est dans le même cas que moi. Mais forcément, les gens ont envie de regarder, les gens ont envie de faire un commentaire, les gens ont envie d'avoir un avis, les gens ont envie en compétition, ce serait quand même cool de la battre, parce que avant, voilà, elle était classée, je sais pas combien. Donc du coup, C'est ça qui est différent. C'est juste que tu reviens après un an où t'as pas été dans la cage aux lions, et là, boum, tu retournes dans la cage aux lions, et ben, les lions, ils ont envie de te manger. Et toi, bah, retrouver ses repères dans cette cage, bah ouais, en fait, ça prend un peu de temps, et ça aussi, il faut que je l'accepte, et que je retrouve l'énergie, parce que c'est vraiment aussi ça qui est important, c'est cette énergie animale qu'on a plus développée pendant un an. J'étais tellement concentrée sur que ma fille aille bien, et je le suis encore, qu'aujourd'hui, voilà, c'est cette énergie qu'il faut encore décupler en compétition pour avoir cet esprit ouais tueur presque, parce que c'est ça reste du sport de haut niveau, et voilà, c'est juste, j'ai découvert un monde de douceur, de bienveillance avec ma famille, et à côté bah faut quand même garder cet esprit très animal quoi.
Il a fallu s'habituer à un corps qui avait changé, mais c'est aussi donc avec un état d'esprit différent que Cécilia Berder a repris le chemin de l'entraînement.
Mais tout est différent. C'est aujourd'hui, je vois les gens, que ce soit dans le monde du sport ou autre, se plaindre beaucoup. Ça a forcément été le cas avant, mais tout est différent. Le sens des priorités, perdre un match, tu relativises plus vite, c'est sûr. Quoi. C'est être fatigué, des fois tu peux t'apitoyer sur ton sort. Non, en fait non. Si je suis fatigué, en fait j'ai quelqu'un qui est là, qui attend de pouvoir manger, de pouvoir jouer, de pouvoir être propre, de pouvoir être changé, de pouvoir bien dormir. Elle compte sur moi et c'est la première fois de ma vie que quelqu'un a besoin de moi aussi vitalement. Et tout change en fait, du coup le sens des priorités. Et je trouve ça exceptionnel. C'est ma meilleure partenaire que je pouvais avoir dans une équipe, quoi. Et surtout qu'on le fait à deux. Et je pourrais pas le faire toute seule. Mon conjoint, il est là au quotidien. Et voilà, c'est un travail d'équipe. Et à trois, voilà, c'est moi qui aime la compétition par équipe. Voilà, j'ai la meilleure équipe possible pour avancer dans la vie. Et c'est la plus belle, c'est même pas une compétition, mais en tout cas, c'est les plus beaux événements qui peuvent arriver, quoi. Tout prend une saveur différente. Des fois, tu te dis, on se bat, on se prend la tête pour se qualifier à X, Y, Z compétition. En fait, aussi, des fois, des choses toutes simples. Je vais pouvoir être complètement ennuyeux de dire ça, mais des choses, voilà, juste de marcher, de prendre le temps, main dans la main, être tranquillement. Voilà, c'est prendre le temps de ça. Parce que les choses font que des fois, ça va trop vite et c'est important de prendre le temps de respirer.
Mère de famille, journaliste et sportive de haut niveau, la Sabreuse a dû trouver une nouvelle organisation pour concilier vie personnelle et vie professionnelle.
Ouais, c'est beaucoup d'adaptation, c'est sûr, surtout les déplacements. Alors j'ai eu la chance d'avoir aujourd'hui des entraîneurs qui comprennent. J'ai déjà refusé deux stages d'une semaine où on va partir très loin. Et moi j'essaie de trouver d'autres chemins pour pas aller à ces stages-là, parce que en sachant qu'évidemment, je perds aussi des moments importants de cohésion de groupe et d'adversité, ou voir rencontrer d'autres adversaires. Mais moi je fais le choix de rester chez moi parce que c'est important, et l'entraîneur aujourd'hui le comprend, mais parce que c'est à moi d'assurer sur les compétitions. Et voilà, c'est une fois encore, c'est qu'est-ce qui est important pour moi, c'est de rester dans ma famille là. Ok, là cette compétition elle est indispensable pour aller se qualifier là, donc j'y vais. Et voilà, c'est des arrangements qu'on trouve un petit peu chaque jour, hein. Qui c'est qui va chercher sa fille à la nounou, qui c'est qui la dépose, moi j'ai une grosse séance ce jour-là, est-ce que tu peux, parce que je vais finir plus tard, le conjoint tout qui s'adapte. Enfin, c'est des adaptations au jour le jour, et c'est pour le mieux, donc voilà, ça se fait, c'est juste que ça demande de l'organisation, tous les soirs, toutes les semaines, on se calme, on voit nos agendas, et les entraîneurs sont compréhensifs parce qu'ils ont aussi des enfants, et que depuis le début, j'ai pas menti en fait, j'ai dit voilà, ma priorité c'est ça, numéro uno c'est ma famille, et après évidemment numéro deux c'est le projet sportif, puisqu'il est grand ce projet, mais voilà, j'ai pas menti dès le début.
Et Cécilia Berder note que le regard des autres sur elle a changé depuis son retour à la compétition en tant que maman désormais.
Ah ben oui, c'était dingue. Alors déjà, ça crée beaucoup de joie, puisque sur les quelques compétitions, j'ai amené ma fille sur les déplacements avec mon conjoint qui était là. Et du coup, les filles, toutes les adversaires voulaient avoir mon bébé dans les bras. C'est quand même un peu particulier. Et je leur montrais ma fille avec beaucoup de fierté, c'est évident. Mais c'est juste des filles avec qui tu vas te cogner sur la tête et deux minutes après elles veulent porter la chose que tu as de plus précieux au monde. Et tu te dis c'est fou comment un petit être arrive à donner aussi vite de la douceur, de la tendresse, de l'amour à nous qui est en train de nous taper dessus deux minutes avant quoi. Et donc ça c'est chouette. Et après ça change le regard de tout le monde, les arbitres, les entraîneurs, les athlètes, ils savent très bien que ils te regardent vraiment et tu te sens comme un bout de viande regardé, est-ce qu'elle est gras, est-ce qu'elle est pas gras, est-ce qu'elle est affûtée, est-ce qu'elle est pas affûtée, est-ce qu'elle va aussi vite ou est-ce qu'elle va moins vite.
Et y a-t-il encore des axes sur lesquels progresser pour accompagner les projets de maternité des sportifs de haut niveau? Cécilia Berder répond.
Aujourd'hui, j'ai eu la chance quand même d'être très bien suivie, que ce soit avant, pendant, après. Aujourd'hui, le plus difficile, je pense que c'est le retour à la compétition de haut niveau. Parce que tout est différent et c'est sûr que même sur l'aspect mental, il faut vraiment être accompagné parce que tu quittes avant d'être enceinte. Moi, imaginons, j'étais à Tokyo aux Jeux Olympiques et quand tu reviens, tu repars sur les toutes premières étapes comme quand tu avais 15-16 ans et c'est pas facile. Et en fait, ce changement-là d'univers, il est hyper constructif et c'est intéressant d'être accompagné. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose qu'on ne doit pas laisser de côté parce que voilà, la préparation mentale, c'est tout aussi importante que revenir en forme physiquement. Ça doit être très fort physiquement. Bah, cette cage au lion, il faut de nouveau l'appréhender, savoir quel univers, et puis les choses ont changé, ça peut paraître anodin, mais les arbitres, par exemple, n'étaient plus vraiment pareils, les adversaires sont plus vraiment les mêmes, voilà, cette cage au lion, elle a changé, et mentalement, il faut réussir à retrouver ses repères, parce qu'en compétition, tout va plus vite, donc du coup, voilà, c'est quelque chose, c'est un aspect sur lequel aussi on doit, je pense qu'on peut encore progresser, ouais.
Et à 33 ans, Cécilia Berder vise désormais les Jeux Olympiques de Paris 2024 à la maison, pour qui sait peut-être remporter une médaille sous les yeux de sa fille.
Salut à vous, et bienvenue sur Voltage, où je vous ai fait ma sélection d'un nouveau meilleur moment de la rédaction de Voltage. Bonne écoute.
Bonjour à tous. Depuis quelques années maintenant, les réseaux sociaux font partie de notre quotidien et pour certains, c'est même devenu leur métier. À l'image de l'Orléanaise Clémence Allaire, influenceuse mode, beauté et lifestyle, qui compte aujourd'hui près de 120 000 abonnés sur Instagram. Bien loin du business juteux et très souvent indigeste développé par les stars de télé-réalité, Clémence, elle, noue des relations particulières avec les marques à la renommée parfois mondiale. Des marques qui ont choisi de faire appel à des créateurs de contenu pour assurer leur présence sur les réseaux sociaux. Alors pourquoi et quel est leur intérêt et comment cela fonctionne-t-il? Clémence Allaire a accepté de répondre à nos questions. Rencontre.
Je m'appelle Clémence, j'ai 30 ans, je suis orléanaise et je suis maman d'un petit garçon. J'ai lancé tout d'abord un blog, quand c'était la folie des blogs en 2010, donc ça fait un petit moment déjà. J'étais au lycée, j'adorais écrire, ma matière préférée c'était le français et j'adorais la mode, j'adorais la beauté et je me suis dit il faut que je trouve une plateforme pour écrire ce qui me fait kiffer quoi. Et du coup j'ai lancé mon blog et à partir de là je pouvais m'exprimer, je pouvais parler mode, beauté, lifestyle, etc. Et je me suis dit pour attraper les gens, j'ai décidé d'interviewer des célébrités. J'ai pas de formation de journaliste à ce moment-là, je ne suis personne, etc. Mais le format blog intéresse vachement les gens. Et donc on me dit oui. Donc j'ai fait des super interviews. Lou Doyon au Théâtre d'Orléans. Incroyable.
Okay.
Vraie interview de grande. David Beckham. Alors là, c'était waouh.
Ah ouais.
Ouais. C'était vraiment cool. Et des personnalités de la mode, etc. Et ensuite, Instagram est arrivé. Et à partir de là, bah, ma communauté du blog m'a suivi sur Insta et c'est grâce à ça que j'ai pu du coup construire une communauté et grandir via ce réseau social.
C'était le blog fonctionnait déjà bien avant ?
Ouais, super bien. Franchement, c'était trop cool. Les gens étaient hyper curieux, attendaient mes articles, c'était vraiment sympa. Et toute la folie Facebook, Twitter et surtout Instagram a complètement changé la donne et aussi pour énormément de médias comme je pense à la presse, etc. Les réseaux sociaux ont pris une grosse place et on a vite compris que c'était un vrai moyen de communication à travers des photos, etc. Donc voilà, ça a commencé à suffire aux gens en fait, ce type de format, donc il faut évoluer aussi avec son temps, même si la passion d'écrire était encore là et voilà.
Pour comprendre le fonctionnement d'Instagram aujourd'hui, comment justement fonctionne ton travail? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu proposes? Et surtout, comment ça marche?
Instagram, donc déjà on est sur un réseau social, tout le monde a accès à Instagram, mais on peut vivre de cette plateforme. Donc moi, mon travail aujourd'hui, c'est de mettre en avant, mettre en lumière des marques, des produits, de la beauté, de la mode, des expériences culinaires, des expériences hôtelières via mes propres photos. Donc voilà, il y a un vrai travail du coup de
création.
De création, c'est ça, voilà. Prendre des photos, bah ça s'apprend aussi. On prend pas des photos n'importe comment, donc on s'équipe. Il y a un vrai travail même avec la lumière, etc. Vraiment, le but, c'est de rendre l'objet encore plus beau qu'il ne l'est déjà. Donc, il y a pas mal de boulot derrière. Il y a une vraie, un vrai travail en amont avec les marques. Donc, on reçoit des briefs. Ils nous disent voilà ce qu'ils veulent exactement. Et nous, on doit reproduire le truc de manière parfaite, en fait. Et c'est très challengeant au quotidien.
C'est un fonctionnement d'agence de communication.
Clairement. J'ai un brief, la marque me contacte, j'ai un brief à respecter avec des deadlines. Donc voilà, je dois envoyer ma photo, ma légende ou ma vidéo, parce que maintenant il y a le format vidéo qui marche énormément bien, avant telle date. Et faut que tout soit nickel pour que je puisse poster.
Comment ça se passe justement le lien avec les marques? Est-ce qu'elles te contactent? Tu les contactes? Comment ça fonctionne?
Alors, il y a certains créateurs de contenu qui vont aller au culot contacter des marques parce que bah, ils ont envie de travailler avec telle marque. Ils se disent bah, moi j'ai un super compte Instagram, donc why not. Et il y a les personnes, moi je fais plus partie de ces personnes là qui attendent que les marques viennent, parce que j'ai toujours peur, enfin j'ai pas envie de déranger ou quoi, et du coup je préfère qu'on vienne vers moi parce que voilà, la marque estime que je corresponds à ce qu'elle veut, et elles viennent vers moi, voilà, en me disant voilà, on aime bien ton profil, on aime bien ton univers, voilà ce qu'on sort comme produit et on pense que ça correspond complètement à ce que tu es. Et du coup après bah je regarde, j'accepte ou pas, parce que des fois on dit non parce que ça nous correspond pas forcément. Il faut savoir dire non, parce qu'après on est très très vite sous l'eau. Et voilà.
C'est justement ça, pour qu'on se rende compte, ça peut être combien de propositions par jour ou par semaine ou par mois,
je sais pas. Alors c'est complètement différent tous les jours.
Mes journées hors Noël, parce que j'imagine Noël, c'est la folie.
Hors Black Friday, hors Noël, tous ces trucs-là, oui. Clairement, en moyenne, je dirais, on peut aller jusqu'à 2 propositions par jour.
Ah oui, d'accord. Ok. Toutes sérieuses?
Bah, il y en a qui sont moins sérieuses, hein. Il y a des marques, c'est clairement du dropshipping, et ça, on n'y va pas du tout, parce que bah, ça peut être même dangereux pour le consommateur, et puis même, pour son image, c'est vraiment pas bon. Mais oui, clairement, aujourd'hui, les marques ont très très bien compris ce business qui est juste incroyable, et préfèrent limite faire de l'influence que faire de la télé.
Est-ce qu'aujourd'hui, comparé à il y a quelques années, ça marche encore plus?
Oui.
Ou est-ce qu'on sent qu'il y a un ralentissement? Parce que là, ça fait quelques années maintenant qu'on parle du métier de l'influence. Est-ce que vous êtes toujours autant happé par les marques, les choses comme ça?
Moi, je trouve que oui.
Ouais, okay.
Ouais, franchement, je trouve que oui. Comme je disais tout à l'heure, vraiment, les marques, elles se disent que Instagram, c'est une mine d'or pour elles, parce qu'on va toucher le cœur de cible tout de suite, en fait. Voilà, une marque de sport va tout de suite aller vers un influenceur sportif et va tout de suite trouver la personne qui va parler de ses produits. Donc c'est tout bénef, clairement. Après, voilà, il y a d'autres réseaux sociaux qui arrivent, enfin qui sont déjà là, bien implantés, comme TikTok. Et là, il y a une grosse comparaison avec Insta. Mais on est sur autre chose, on est sur une autre génération. Donc pareil, il faut vivre avec son temps. Mais franchement, je trouve qu'il y a encore beaucoup de travail sur la partie Insta.
Sans chiffrer, est-ce que tu sais si c'est moins cher, entre guillemets, de faire appel à des influenceurs que de faire appel à une grande chaîne de télé, par exemple, pour faire de la pub?
Ouais. Okay. Alors, moi, j'ai travaillé dans le marketing d'influence avant d'être 100% sur Insta. Du coup, j'ai pu assister au backstage de tout ça, de voir quel budget les marques pouvaient mettre pour une campagne avec X influenceurs. On est clairement en dessous d'un spot publicitaire.
D'accord.
C'est après, voilà, il y a des influenceurs qui sont très 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 puissants, où ça chiffre forcément beaucoup, parce que forcément, ils font extrêmement vendre. Donc là, forcément, on peut être un peu choqué par rapport au prix. Et voilà, mais le prix d'une pub juste avant le 20h, c'est beaucoup plus cher.
Quel est le point négatif dans ce travail? L'exposition sur les réseaux?
Bah oui, il y a le côté surexposition de sa vie. Après, clairement, il faut le dire, moi, je parle pour moi, je montre 5% de ma vie. Enfin, voilà. Entre Instagram, c'est pas la vraie vie, et je suis trop contente de pouvoir le dire à la radio. Instagram n'est pas la vraie vie. Il faut faire déculpabiliser les gens qui se comparent à ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Clairement, c'est pas la vraie vie du tout. Et les points négatifs, c'est ça, c'est quand on fait ce travail, ben on va avoir toujours cette pression de l'image. Est-ce que je vais être assez bien? Est-ce que mes photos vont être mieux que celles de ma copine qui est sur Insta aussi? Oh, elle, ça marche peut-être un peu mieux. En fait, on est toujours dans la comparaison et ça peut faire mal. Mais après, voilà, faut être bien entouré et se raisonner. Moi, c'est pour ça. Moi, j'ai mon mari qui est là, j'ai mon agent, j'ai des gens qui me disent tout le temps, bah arrête un peu, des fois, tu te montes la tête pour rien. Et voilà, et après, autre point négatif dans ce métier, c'est que bah, le métier d'influenceur, entre guillemets, c'est perçu comme quelque chose de facile. C'est pas très, pas forcément pris au sérieux, mais franchement, derrière cette image, il y a tellement de boulot, il y a tellement de pression aussi qu'on s'inflige nous. Donc, voilà.
S'il y avait un conseil, c'est pas un conseil, mais si en gros, si tu devais faire passer un message par rapport à tout ça, ce serait lequel?
Je l'ai dit juste avant, je crois, mais Instagram n'est pas la vraie vie, vraiment. N'importe quel réseau sociaux d'ailleurs, ce que vous voyez, voilà, c'est une toute petite partie de la vie des gens, et c'est surtout ce que les gens veulent montrer. Et après, vous pouvez bien sûr suivre des gens qui vous inspirent et qui vous donnent envie aussi de réaliser des choses, de voyager, de faire plein de choses. Mais ne vous comparez pas à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ça peut être dévastateur, clairement. Moi, je l'ai vu en travaillant dans le marketing d'influence. Je prenais des stagiaires de 3e. S'il n'y avait pas plus de 200 likes sous la photo, j'étais une mauvaise personne et ça m'a brisé le cœur. Je me dis, mais on en est là, quoi. Donc c'est trop cool, les réseaux, ça nous permet, voilà, de rêver un peu, de s'échapper, de rire parfois, parce qu'il y en a qui sont très forts là-dessus, d'apprendre aussi plein de choses. Il y a des gens qui sont trop bien calés, il y a des infographies trop cool sur les réseaux sociaux et tout, mais ne pas se monter la tête non plus, et voilà. Tout simplement.
Une dernière question à destination peut-être des jeunes auditeurs qui nous écoutent et qui veulent faire quoi plus tard, ils veulent devenir influenceurs. Est-ce que c'est... Moi c'est un sentiment personnel, c'est que j'ai l'impression que toutes celles qui ont explosé justement dans ce milieu-là, qui arrivent à en vivre, elles c'était pas volontaire au départ.
Ouais.
Et est-ce qu'aujourd'hui on peut réellement décider plus tard je serai influenceur?
Je crois pas. Franchement, je crois pas. Je pense que si quelqu'un a envie de faire ce métier, bah, il peut se donner les moyens à fond. Mais je peux pas dire à 100% qu'il va réussir. En fait, je pense que il y a aussi une part de chance aussi, je pense aussi, parce que il suffit de poster une vidéo et d'un seul coup d'avoir le lendemain matin 1 million de vues et là, waouh, tout commence. Enfin, il y a des études, il y a des formations maintenant pour essayer de faire au mieux, d'avoir un beau feed Insta, de pouvoir faire plein de trucs trop cool. Mais je pense que tout le monde ne peut pas faire ça. Et voilà, il y a une partie de chance quand même, faut le dire. Voilà, après, si la personne a vraiment envie de le faire, elle peut se donner les moyens, faire de jolies rencontres, faire des stages aussi dans le marketing d'influence, rencontrer des gens. Mais voilà, c'est quand même très fermé, mine de rien.
Vous êtes au cœur de la nuit sur Voltage. Avec de la musique à écouter.
Mi sveglio ed è passata solo un'ora. Non mi addormenterò. Ancora 8 lune nere e tu la nona. Je n'ai pas mérité ça, dis-moi ce que tu attends de moi, de cet amour véritable. Y'a plus l'étincelle, pourtant je sens que ça brûle au fond de moi. Je t'aimais tant que ça, pourquoi ça fait si mal? C'est comme mourir un peu, à petit peu. Sinceramente, quando piango anche se a volte mi nascondo. Non mi sogno di tagliarmi le vene. J'perds le tempo, j'perds le tempo, j'perds mes repères. Toute ma vie tombe à l'eau. Mi piace quando piango anche se poi cadesse il mondo. Non mi sogno di morire di sete. J'perds le tempo, moi je t'aime trop. J't'ai dans la peau et à part des filles jusqu'aux os. J'vois pas ce que j'peux faire d'eau. Sinceramente. Sinceramente. Si tu m'as aimé. Sinceramente. Quando piango anche se a volte mi nasco.
sinceramente